revient ce matin à notre série de messages sur l'Exode.
Ouais!
Et on est dans la partie du livre, toujours, où l'action se passe en Égypte. Et vous savez peut-être que durant nos vacances d'octobre, Cheryl et moi, on a fait un petit tour en Égypte, pas long, une journée en Égypte. Et voilà quelques photos. Alors, vous savez peut-être que David et Teresa sont partis un peu dans ce coin du monde, pas exactement l'Égypte, mais l'Asie mineure, la Turquie. Et je pense que vous pourrez nous montrer aussi des photos à un moment donné. Nous, on a pu, dans notre vacances, Cheryl et moi, voir quelques vestiges bibliques, dont un peu cette région d'Égypte où il y a les pyramides. C'est possible que c'est dans ce coin-là que Moïse a grandi. On n'est pas sûr, peut-être plus au sud. Mais de toute façon, c'était vraiment intéressant de voir un peu tout ce qui restait des vestiges, tout ce qui restait des dynasties des pharaons. Et en fait, le contact avec tous ces trucs historiques, comme les pyramides, ça a stimulé notre imagination par rapport à comment on comprend l'histoire biblique. C'était très, très bon pour nous. Et on est reconnaissant pour ce privilège. Mais encore plus extraordinaire, hein, pour moi, peut-être pour Cheryl aussi, c'est les rencontres qu'on a eues avec des Égyptiens d'aujourd'hui, dont le monsieur qui est là dans la photo d'en bas, il s'appelle Mostafa, c'était notre guide touristique. Et pendant les longs trajets en minibus, il nous racontait avec passion l'histoire de l'Égypte. C'était quelqu'un qui était passionné par les pharaons. En même temps, c'était clairement quelqu'un qui était passionné par sa foi musulmane, et il ne se gênait pas de nous en informer. Alors, il nous disait, « Bon, ma compagnie ne veut pas que je fasse du prosélytisme, je vous donne seulement de l'information. » Il nous en a beaucoup donné d'informations sur l'islam et sur la foi des Égyptiens pratiquants, ce qui nous a permis à nous de lui parler un peu quand même de l'Évangile, de notre foi chrétienne. Et je m'étais souvenu, avec des gens qui ne sont pas très exposés à l'Évangile, de leur raconter des paraboles, c'est une bonne idée. Et Mostafa a été quand même très interpellé par la parabole du fils prodigue qu'on lui a racontée dans la minivan. Et on continue de correspondre avec lui, de prier avec lui. Tout ça pour dire que dans notre marche avec Jésus, ce qui est merveilleux, on peut être enrichi par l'héritage historique du passé. Et en même temps, on continue d'investir dans notre mission du présent, rendre l'Évangile disponible pour les gens autour de nous. Amen. Amen. Donc, même quand on est en voyage dans les sites bibliques, on fait des rencontres comme ça où l'Esprit-Saint est présent. C'est merveilleux. En fin septembre, on avait parlé de Moïse qui est devenu jeune adulte, hein? Et au chapitre 2, on avait posé la question, est-ce que Moïse se comporte à ce moment-ci comme un homme appelé par Dieu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plus poussé par des pressions sociales ou des pressions familiales ou peut-être émotionnelles à l'intérieur de lui? Et on a vu que même si Moïse était informé sur le plan de Dieu jusqu'à un certain point, mais il n'était pas encore appelé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu que il y a quelque chose de spécial quand un être humain vit vraiment comme quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vie de Moïse. On avait posé cette question. Vous vous souvenez peut-être, toi, es-tu poussé ou es-tu appelé? Parce que c'est le même message aujourd'hui ce qui était important pour Moïse est important pour nous aussi. L'Évangile, c'est un appel que Dieu te donne pour le suivre personnellement. Est-ce que tu as entendu l'appel? Ou est-ce que tu es encore poussé par d'autres choses? En anglais, on dirait « driver », mais on va dire « poussé » en français. Considérons alors ce matin l'histoire de l'appel de Moïse dans le chapitre 3 de l'Exode. Un point tournant dans sa vie. Dieu va lui parler, il va changer de direction. Vous savez, on a une église sœur dans l'Alliance à Laval qui s'appelle l'Église 180. Un drôle de nom pour une église. L'Église 180. Et ce que ce nom signifie, peut-être vous pouvez le deviner, c'est l'idée d'un changement de direction quand on entend l'appel de Dieu. Un tournant de 180 degrés. Moi, j'allais demander aux jeunes, mais ils ne sont plus là, mais peut-être qu'il y a des jeunes du secondaire qui sont encore avec nous, ou est-ce qu'ils sont partis aussi. Un angle de 180 degrés, c'est quoi? Il y en a-tu qui sont rendus en trigonométrie? Un angle... Ah oui, il y a des profs de maths. Je vois que Chantal est en train de parler à... C'est quoi un angle de 180 degrés? Si je suis en train de marcher par là, un angle de 180 degrés, je tourne où? Ici?
Non.
Je tourne pas?
Non.
Oui, Sophia. Elle sait. C'est que c'est demi-tour. C'est 360 qui est comme ça. Oui, non. Donc, cette église dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est entendre l'appel de Dieu. Et plutôt que de continuer à marcher dans la direction que ma volonté propre a choisie pour ma propre vie, ou que la société a choisie pour ma propre vie, ou les pressions familiales, eh bien, je tourne dans la direction que Dieu me demande. Et je suis son appel. Pour ceux qui regardent la série The Chosen, je ne sais pas quel est le nom en français, mais si vous regardez la musique quand il y a les présentations des acteurs et tout ça, il y a comme un dessin d'un banc de poissons qui passe dans l'écran, puis il y en a un qui tourne et puis qui commence à nager dans l'autre direction. En tout cas, pour ceux qui connaissent cette série télévisée sur Jésus-Christ, télévisée est à l'Internet, c'est la même idée. On va parler de ce virage de 180 degrés et voir un peu comment ça s'est passé pour Moïse. Alors, lisons le texte. On a déjà prié, mais on va prier à nouveau. Seigneur Dieu, en fait, ce matin, c'est vraiment important. On veut donner l'occasion pour chacun d'entendre ton appel et dire oui. La décision la plus importante de notre vie, de dire oui à Christ. Alors, ouvre notre cœur pour entendre ta parole. Nous prions au nom de Christ. Amen. Alors, j'espère que vous pouvez voir. Sinon, écoutez, je vais essayer de lire bien fort. Moïse était devenu berger. Berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. » « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Et Dieu ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha la face car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour faire monter de ce pays, de le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres, de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit, je suis celui qui est. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, moi, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Amen. L'essentiel de ce que je veux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est ceci. Dieu a appelé Moïse à lui. Dieu t'appelle aussi à lui aujourd'hui. Dieu a appelé Moïse à lui. Dieu t'appelle à lui aussi. Toi aussi, aujourd'hui. C'est le même Dieu. C'est le même plan du salut. Et dans notre temps, c'est encore meilleur qu'avec Moïse, parce que Christ est venu. Et c'était le but. C'était le but de tout ce que Dieu préparait avec Moïse, que Jésus-Christ vienne. L'appel de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu reçoives Christ dans ta vie. Selon l'invitation que Jésus lui-même a prononcée. Voici. C'est le Jésus ressuscité qui a parlé aux églises de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Lui ou elle, et c'est le même appel aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi la porte. » Il y a des réalités importantes dans le texte, dans l'histoire de Moïse, que je voudrais mettre en valeur ce matin. Premièrement, l'histoire qu'on a lue, en fait, la Bible, quand on la regarde en entier, on voit que l'appel de Moïse préfigure la nôtre. Elle explique notre appel, mon appel à moi. Regardez comment l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament parle de cette histoire. Hébreux dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est là qu'on est rendu dans l'histoire, Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Voyez-vous qu'il y a un lien entre l'appel de Moïse, la venue de Christ, et puis notre appel. En passant par la Sainte Cène où Jésus a dit, la Pâque que je célèbre, en fait, dans le passé, elle célébrait l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, elle va célébrer la Nouvelle Alliance qui commence aujourd'hui dans mon sang, grâce à mon sang. Alors, Moïse lui-même a pris une décision, en fait, rattachée à Jésus-Christ lui-même. Et c'est un peu surprenant parce que Moïse n'avait pas encore entendu parler de l'homme Jésus-Christ qui est venu bien des siècles plus tard. Moïse, en fait, répondait au même Dieu qui allait envoyer le Christ dans le monde. Et sans que Moïse le comprenne totalement, c'est le Christ lui-même qui est venu lui parler dans le buisson. Parce que Christ, c'est Dieu le Fils qui est là depuis le départ et qui prépare. Le Dieu trinitaire prépare le salut des hommes en passant par Moïse. Ce pas de foi que Moïse va prendre va préparer le chemin pour que Christ vienne pour nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ce passage dans Hébreux, c'est que on a l'impression, en lisant le premier texte, que Moïse n'est pas encore décidé de suivre Dieu. Mais ce que ce texte dans Hébreux dit, c'est que même avant qu'il rencontre Dieu dans le buisson, même avant qu'il prend la décision consciente de dire oui à Dieu, il est en train de se tourner vers Dieu. Le fait qu'il a dû fuir l'Égypte, c'est parce qu'il avait déjà, en quelque sorte, décidé de s'identifier au peuple persécuté de Dieu, en quelque sorte, d'aller dans la direction que Dieu allait l'appeler. Et ça montre que l'appel de Dieu, c'est pas juste au moment où consciemment et finalement tu dis oui à Dieu, mais depuis le début, l'appel de Dieu qui est décidé d'avance par Dieu dans son amour est déjà à l'œuvre dans ton cœur, dans ta vie, dans toutes sortes de préparatifs où Dieu est en train de t'attirer à lui. Moi, je me souviens quand j'étais un jeune étudiant à l'Université d'Ottawa, dans les mois qui ont précédé le moment où un ami chrétien me met au pied du mur, c'était Dieu, il me dit, voici le plan du salut, puis c'est le temps, Marc. Est-ce que tu es prêt à accepter Christ dans ta vie? Et j'ai dit oui, mais même avant cela, quand j'y pense, déjà j'étais en train d'aller au groupe chrétien sur le campus. Et puis, cette pensée m'était venue à ce moment-là, mais j'ai comme, on dirait, j'aime plus être avec ce monde-là qu'avec mes amis à moi. Et je me souviens même, j'ai déjà raconté ici, j'étais dans le pub des ingénieurs à l'université où la bière coulait à flot. C'était un vendredi soir et puis c'était à cette époque-là où Dieu était en train de m'appeler. Puis je me suis dit, mais ça ne me tente pas d'être ici. Je sais que les chrétiens, ils sont dans un autre local à l'autre bout du campus. Je suis parti. Puis c'était comme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprenais pas. Donc, vous voyez que l'appel de Dieu chez Moïse est déjà à l'œuvre comme ça. Étais-tu déjà... Comment? Est-ce que j'étais déjà ivre? Bien sûr que non. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais je ne pense pas. Merci pour cette belle question. Bien, la Bible dit que l'ivresse que donne le Saint-Esprit, c'est tellement plus merveilleux. Et Paul, il dit, ne vous enivrez plus de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est tout un... Il faut faire l'expérience de ce buzz-là de l'Esprit-Saint. Hein? Oui. Oui. Wow! Alors... Oui, tout à fait. Alors, prenons un petit moment de silence maintenant. Remercier ce Dieu bon qui nous appelle à lui et c'est lui qui nous donne la force de lui dire oui. Peut-être tu l'as déjà reçu. Remercie-le. Peut-être il est en train de te préparer pour le recevoir. Remercie-le en ce moment parce qu'il te prépare. Il t'appelle à lui. Prenons un petit moment de silence. J'aimerais maintenant continuer avec une autre réalité dans cette histoire. Dieu vient à Moïse en lui parlant. Il lui parle directement et personnellement. Et c'est ce qu'il fait avec nous aussi aujourd'hui. Alors, dans le cas de Moïse... Et de certaines personnes aujourd'hui, peut-être qu'il y en a dans cette salle, ils vont dire, mais j'ai vraiment, à un moment donné, quand Dieu m'appelait à lui, j'ai entendu une voix audible. J'ai carrément entendu quelque chose dans mes oreilles. Mais pour la plupart des gens, puis je peux dire que c'est mon cas, Dieu nous parle d'une voix forte, mais elle est à l'intérieur du cœur. Une voix qui parle toutefois clairement et directement au cœur ou à la conscience. Et moi, je me souviens quand cet ami, quand il voyait que j'arrêtais pas de venir et de m'approcher, et il a pris rendez-vous avec moi et il m'a expliqué que Jésus m'appelait à lui. Et j'entendais cette voix silencieuse qui faisait battre mon cœur et qui disait, « Marc, arrête de résister à mon amour. » Pour toi. Arrête d'aller dans l'autre direction. J'ai un plan pour ta vie. Arrête de dire non à ce que je devienne ton sauveur, ton maître. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Je veux entrer. Et finalement, j'ai cédé. C'est merveilleux. On voit déjà que ce même Dieu est en train de parler à Moïse ici. Et ce qui est beau dans l'amour de Dieu ici pour Moïse, il y a comme différentes façons que Dieu parle, que Dieu vient rencontrer Moïse là où il est. Alors Dieu, on voit dans cette histoire, il choisit une journée ordinaire de la vie de Moïse. Il est avec les brebis dans le désert en train de chercher du pâturage. En même temps, c'est une journée ordinaire, mais Dieu sait que c'est la journée où le cœur de Moïse est prêt. Prêt pour vraiment rencontrer ou entendre sa voix. Et Dieu attire Moïse. Comment? Ben, par un buisson qui brûle, mais qui n'arrête jamais de brûler, qui ne se consume pas. Vous savez qu'il y a des poêles pour chauffer les maisons avec du bois. Et moi, j'en ai une que le bois, il brûle trop vite. Et là, il s'est rendu illégal. La ville de Dorval dit, vous n'avez plus le droit d'utiliser ça. Ça crée trop de pollution. Et ça brûle trop vite. Et je sais que des nouveaux modèles, ça brûle plus lentement, c'est plus efficace, ça crée moins de gaz à effet de serre. Eh bien, je n'ai pas eu les moyens encore ou le temps de changer mon poêle, ouais. Mais quand même, ce n'est pas le buisson ardent, là. On n'est pas rendu que ça brûle éternellement. Mais voici que ça brûlait. Et Il pique la curiosité de Moïse. Moïse ne sait pas que c'est Dieu, mais il dit, ben, je vais aller regarder. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez être un buisson ardent. Ça peut être notre église, ça peut être ta vie. C'est que tu vis avec Christ, tu es comme un flambeau dans le monde. Et peut-être tu vas piquer la curiosité de quelqu'un que Dieu est en train de préparer à côté de toi et qui se demande, mais qu'est-ce qui fait que cette personne est pleine d'espérance en tout temps, même quand ça va mal? Je veux en savoir plus. Je voudrais m'approcher pour voir d'un peu plus près. En tout cas, Dieu attire la curiosité de Moïse. Dieu l'appelle par son nom. Moïse. Moïse. Est-ce que tu savais que Dieu te connaît par ton nom? Il t'a créé pour être unique. Ton nom est unique dans le cœur de Dieu. Il t'appelle à lui tel que tu es. Il t'appelle par ton nom. Il avertit Moïse par rapport à sa sainteté. Ne t'approche pas trop vite. Oui, je t'invite dans ma présence, mais d'abord, il faut que je t'enseigne à préparer ton cœur. Hein, c'est ça le sens de « enlève tes sandales ». Ne t'approche pas. Plus tard, Moïse va retourner à la même montagne. Il va entrer dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, au buisson ardent, il n'était pas encore prêt. Et Moïse lui dit, « Approche-toi pas trop vite. Enlève tes sandales. Reste un peu à distance. Écoute-moi. » Dieu se présente à lui par rapport à son plan pour le peuple de Dieu. Dieu donne à Moïse une nouvelle direction et un rôle dans son plan. Et puis, une chose qu'on n'a pas lue, mais il y a quatre objections de Moïse dans l'histoire. On en a juste lu la première, mais « Qui suis-je, moi, hein, dit Moïse, pour aller confronter le Pharaon et convaincre les Israélites de me suivre? » Et Dieu répond à toutes les objections de Moïse en parlant de lui-même, hein? C'est moi qui vais te donner la force. Ça, c'est important, ça. Dans son amour et sa puissance, il fait fondre toutes les résistances de Moïse. Prenons un autre petit moment de silence. Mes frères et sœurs, chacun de nous, soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu entends sa voix qui te parle? Ensuite, on voit dans cette histoire que Dieu révèle à Moïse qui lui est vraiment, je parle de Dieu, et qui Moïse est vraiment. Donc ça, c'est important, cette question-là. Mais je suis qui, moi, pour faire cette œuvre qui ne me tente pas? Devant la résistance de Moïse et aussi devant son découragement, peut-être que Moïse était découragé par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Dieu lui montre que vraiment, lui, Dieu, est beaucoup plus grand et beaucoup plus présent que Moïse pouvait l'imaginer. Moïse est surpris. Et Moïse, tout d'un coup, voit que Dieu, tout d'un coup, est grand, présent, puissant. Et à ce moment-là, Moïse se fait tout petit. Et il y a comme une vérité ici qui est vraie pour chacun d'entre nous. Plus je connais Dieu tel qu'il est, plus je me connais moi-même tel que je suis. Et très souvent, on se voit grand et très capable et très autonome avant de découvrir Dieu. Puis quand on découvre Dieu, on réalise à quel point nous sommes petits. Mais en devenant petit devant Dieu, Moïse accepte d'être humble. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va devenir quelqu'un qui fera de très grandes choses. Et est-ce que tu savais que c'est ton cas aussi, qu'en devenant petit, petite devant Dieu, tu vas être appelé dans des choses que tu ne soupçonnais pas. Pas par ta force à toi. Pas par ta force à toi. Dieu lui dit son nom. Alors, en hébreu, c'est quelque chose comme Yahvé, Yahva. Et on le traduit en français l'Éternel. Mais Moïse est la première personne, et ça fait de lui un prophète, la première personne à qui Dieu révèle le vrai sens de son nom, Yahva. Ça vient du verbe être, ça veut dire je suis celui qui est. Ça, c'est le vrai sens du nom éternel ou Yahvé. Je suis celui qui est. Et il y a eu un océan de littérature qui a été écrit sur ce verset, puis on n'est toujours pas rendu à vraiment aller au fond de qu'est-ce que ça veut dire, ce nom. Mais une chose est claire, le vrai Dieu qui m'appelle à vivre en lui n'est pas quelqu'un que je vais définir selon mes besoins ou mes circonstances. C'est lui qui est. Puis, en croyant en lui, en le suivant, il bâtit mon être à moi. Donc, il y a une inversion ici par rapport à l'idolâtrie, par rapport aux fausses religions où les humains créent Dieu, créent des dieux pour leurs besoins. Ici, le Dieu qui est, le Dieu qui est, qui a toujours été, nous amène à lui et recrée qui moi je suis. C'est pour ça que même dans l'Apocalypse, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Es-tu prête ce matin, comme Moïse, en ce jour-là au Mont Horeb, es-tu prête à recevoir Jésus, celui qui est? Acceptes-tu qu'il vienne et qu'il devienne maintenant celui qui va te définir. Ce matin, on a considéré le 180 degrés de Moïse. Ça ne venait pas de lui, ça venait du Dieu qui est venu l'appeler. Il t'appelle à un 180 ce matin. Et il ne va pas te demander de faire sortir un peuple d'Égypte. Il va te demander plutôt de te joindre consciemment à un peuple de pécheurs pardonnés qui marche à la suite de Jésus. Jésus frappe à ta porte ce matin. Es-tu prêt à le recevoir? Il y a peut-être quelqu'un qui est ici ce matin qui aimerait dire à Jésus, « Oui, je veux te donner ma vie. » Et si oui, eh bien, je t'invite à lui dire. Je t'invite même à venir en avant ici. On peut mettre quelques chaises et tu peux venir prier en avant. On va prier pour toi. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent prête ou prêt à recevoir Jésus dans sa vie? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. On va continuer à prêcher cette bonne nouvelle. Tu peux, oui, tu peux venir. Oui, oui, viens. Alors, on va prier pour toi. Oui. Et s'il y a d'autres personnes qui aimeraient qu'on prie pour eux, s'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Christ dans sa vie, venez en avant et on va prier pour vous. Je sais que ça, c'est un pas de courage, c'est un peu gênant, mais si, et fais-le pas si tu te sens forcé, non. Mais si tu sens que oui, C'est pour ça que je suis venu ce matin. J'aime Jésus et je veux vivre pour lui. Alors viens en avant. Ne te gêne pas. Et on va prier pour toi. Prions ensemble. Si pendant la prière, tu veux venir, viens. Il y a un chant qui dit ceci. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur, Seigneur, est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Alors, Seigneur, continue de nous appeler à toi. Sois avec ceux qui écoutent, qui réfléchissent. Et sois avec ceux qui ont besoin d'être encouragés dans leur décision de suivre Christ. Et Seigneur, que nous devenions une église où tout le monde peut dire, oui, j'ai cédé, j'ai ouvert la porte à Christ qui frappait à ma porte. J'ai entendu et j'ai répondu pour que nous puissions grandir en toi. Merci Jésus. Au nom de, et c'est en ton nom que nous prions. Amen.